LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Manger la France, épisode 4, il n'y a plus de saison. Par Elodie Maillot et David Jakubowiez.
Et après du fromage blanc, pomme, poire et crème sucré vanille. Et du Cantal.
C'est quoi du Cantal?
C'est du fromage.
Du fromage.
Ah, ok.
Ce midi, dans cette cantine d'une école publique française, les enfants mangent du cabillaud. C'est l'espèce aquatique la plus pêchée au monde aujourd'hui. Le cabillaud, quand moi j'étais en CM1 comme ses élèves sur nos menus, il s'appelait Colin d'Alaska, comme pour lui donner une provenance plus noble, ou en tout cas plus fraîche dans nos imaginaires, un peu comme si le poisson sortait directement de la glace. Et surtout, comme si ajouter une provenance pouvait donner un goût plus profond ou plus subtil à nos plats. Une origine invisible, mais puissante. Et puis à Noël, à la cantine, on nous distribuait des clémentines d'Espagne emballées dans du papier. On faisait alors tous un vœu, parce que c'était la première fois qu'on en mangeait dans l'année. C'était pour nous une façon d'intégrer la temporalité des saisons, le cycle de la vie, du passé et de ce qui reviendrait comme un rituel quand on serait plus grand et qu'on passerait en CM2. Aujourd'hui, pouvoir retracer le chemin parcouru par nos aliments devient un luxe. Pouvoir suivre le fil de ce qui a traversé nos territoires pour arriver dans les cantines de nos employeurs est même parfois devenu impossible. Et les enfants se demandent peut-être déjà ce qu'ils mangeront au prochain repas de Noël ou en 2075, quand ils auront 60 ans.
Peut-être que déjà dans 50 ans, on mangera plus de viande. Parce que... voilà, hein.
Pourquoi on mangera plus de viande, Dylan, dans 50 ans?
On ne mangera plus de viande parce que l'élevage, ça pollue. L'élevage des animaux, ça pollue. Et... bah, ouais. Et voilà.
Tu as compris, Zachary? Tu as dit parce que ça pollue trop. Vas-y, Bakia.
Bah, moi, je pense que dans 50 ans... comme a dit Dylan, on ne mangera plus de viande. Mais soit la viande sera faite avec des légumes, soit on mangera des insectes. Par exemple, des fourmis et des vers de terre. Il y a déjà une boutique.
C'est vrai. Miam, miam. Des petits vers de terre.
Bah, peut-être qu'au lieu de la viande, bah, on pourra faire de la viande d'escargot. Bah, dans 50 ans, peut-être qu'on mangera de la terre. Maintenant, on n'en mange pas parce que bah, on sait que ça peut nous rendre malades. Enfin, on a plein d'autres choses, alors on mange plutôt. On va plutôt manger des pommes de terre que de la terre.
Je pense que dans 50 ans, peut-être que vu que il y aura beaucoup plus de fusées, ben, on pourra aller un peu souvent sur la Lune. Ce sera un peu un voyage qu'on peut faire comme quand on va, par exemple, en Espagne. Enfin, ce sera un peu pareil, que du coup on rapportera des pierres lunaires et qu'on pourra faire des glaces aux pierres lunaires et, ou d'autres aliments comme ça.
Christophe Lavelle, vous qui êtes chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, est-ce que vous diriez que essayer de se projeter dans le futur de l'alimentation, finalement, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, puisque on pourrait dire que déjà au XIXe siècle, un des cuisiniers les plus célèbres de France, celui qui a posé les bases de la cuisine française, c'est-à-dire Auguste Escoffier, disait déjà « La cuisine évoluera comme évolue la société elle-même, sans cesser d'être un art, elle deviendra scientifique
et disait, devra soumettre ses formules empiriques trop souvent encore à une méthode et une précision qui ne laisseront rien au hasard. C'est un mantra pour beaucoup de chefs de cuisine aujourd'hui, qui est de se dire que la cuisine, c'est une activité artistique. Mais derrière tout ça, elle repose sur des bases qui sont bien sûr scientifiques. Et on va faire des recettes, on va avoir une idée qui est une idée poétique, une idée artistique, Et puis, on va faire appel à la science pour mettre en œuvre cette idée. Tiens, j'ai envie de faire un nuage qui a du goût. Voilà. Allez.
Est-ce que vous imaginez, Christophe Lavelle, que dans 50 ans, on attendra la pluie avec impatience, on aura oui. envie de manger plus de nuages, par exemple?
Ah, oula, là, on est parti dans la poésie, justement. Alors, manger des nuages, c'est quelque chose qui est assez à la mode hein, depuis une vingtaine d'années. Tout ce qui est écume, air, tout ce que fait avec les siphons, les espumas et autres, ça a été lancé par la cuisine dite moléculaire. Ce côté qui est toujours fascinant de consommer des choses les plus légères possibles. Ça va jusque récemment à des expérimentations dans quelques restaurants où ils font des écumes gonflées à l'hélium. Donc effectivement, là, on a vraiment un nuage. C'est-à-dire qu'on a des espèces d'écumes qui flottent dans l'air, que le serveur est obligé d'attraper avant que ça monte au plafond. Et après, on aspire ça et voilà. Et ça fait beaucoup le buzz sur les réseaux sociaux parce que ça fait des vidéos rigolotes. On est plus dans un côté image. Mais la question fondamentale est plutôt effectivement, dans 50 ans, qu'est-ce qu'on va manger? Et ça, on se la pose tout le temps, cette question-là. Et ce qui est intéressant, quand on réfléchit au futur et au domaine très particulier qu'est l'alimentation, c'est que dans les scénarios de science-fiction, type l'Odyssée de l'espace ou Soleil vert, pour prendre des projections à 50 ans, parce que Soleil vert, c'était dans les années 70, et il se projetait en 2022. Donc, il se projetait à 50 ans. Dans le futur lointain, on mange des trucs qui n'existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire des pilules, des gels protéinés, des... voilà. La réalité contredit totalement ses projections. Elle dit mais non, en fait, dans 50 ans, si tout va bien, on mangera exactement la même chose qu'aujourd'hui. Parce que ce qu'on mange aujourd'hui, on le mangeait, en gros, hein, on le mangeait il y a 50 ans, et en fait on le mangeait aussi il y a 500 ans, et on le mangeait aussi il y a 5000 ans, et sans doute on le mangeait aussi il y a 500 000 ans. C'est-à-dire que si je prends ma recette de coq au vin d'aujourd'hui, que j'ai envie de manger, je prends de l'eau, dedans je mets une garniture aromatique avec des oignons, des herbes et tout ça, je mets ma volaille, je laisse cuire, je laisse réduire, et je mange ça. C'est ce que faisaient nos ancêtres il y a 500 000 ans. Et c'est ce que j'ai envie de faire dans 50 ans encore. Et donc le futur, quand je l'imagine, techniquement aujourd'hui on est capable de faire beaucoup de choses. Techniquement on est capable de faire du carbon capture, c'est-à-dire prendre du carbone, et le concentrer en acide gras et en ajoutant un peu de bêta-carotène et un peu de...
Pour la couleur.
Butandione. Pour la couleur, le bêta-carotène et puis le butandione pour la saveur beurrée, on est capable de faire du beurre en capturant le carbone. Enfin, c'est pas du beurre, mais c'est un truc, une matière grasse qui ressemble au beurre. Mais ça, c'est juste, parce que ça permet de rêver pendant 3 secondes et de sortir de sa zone de confort. Mais en vrai, tout ce qu'on va développer d'un point de vue technologique aura pour objectif de ne surtout pas changer nos habitudes.
Est-ce qu'on risque de manquer de pain ou de poisson ?
Manquer de pain, pas forcément. On parle beaucoup, effectivement, des baisses de rendement sur les blés, mais en agroécologie, et si on s'y prend bien, on peut espérer qu'on va continuer à pouvoir faire pousser du blé pour tout le monde. Le poisson, alors là, je serais beaucoup moins optimiste. Ça, je sais pas.
Zone industrielle de Capécure, 5h du matin, par une nuit de pleine lune.
Donc là, juste en face, on va dire à vol d'oiseau, à 30-40 km maximum, vous êtes sur les côtes anglaises, et par beau temps, vous voyez les falaises de Douvres.
Donc on est ici au nord de la France.
Vous êtes au nord de la France, exactement, enfin, vous êtes dans les Hauts-de-France.
Charles-Hubert Lamouret, secrétaire général de la coopérative maritime de Boulogne-sur-Mer.
Charles-Hubert, vous regardez souvent les bateaux qui partent comme ça, tout seuls, vers la mer ?
Bah, on est quand même privilégiés, et c'est toujours agréable de les voir soit arriver, soit repartir comme ça au petit matin, à la levée du jour. Il y a encore une dizaine d'années, les bateaux boulonnais pêchaient du cabillaud. Aujourd'hui, on débarque plus de cabillaud ici à Boulogne via nos chalutiers.
Parce que la mer s'est réchauffée ?
Parce que la mer s'est réchauffée, la ressource a migré davantage sur la mer du Nord. Et à contrario, depuis 5 ans, on commence à pêcher du thon rouge en Manche. Pas plus tard que la semaine dernière, on a pêché 8 thons rouges en Manche. Et donc ça, c'est aussi la conséquence du réchauffement de la température de la Manche.
Ça, c'est du jamais vu ?
Alors, ça, on a pêché les premiers thons rouges il y a 3 ans. c'est des espèces qui sont quand même considérées comme des prédateurs vis-à-vis des autres poissons. Donc ça va totalement changer l'équilibre qu'on connaît aujourd'hui dans la mer Manche, mer du Nord. Donc à terme, on voit vraiment un changement d'espèce dans nos eaux. Hein. En quelques années, on voit des espèces qui ont totalement disparu de nos étals, et donc c'est des espèces qu'on ne retrouve plus dans les chaluts ou dans les filets. La sole, qui était un produit phare et un produit très demandé à Boulogne, aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver de la sole au large des côtes de Boulogne.
C'est ce que vous appelez une espèce effondrée, ça veut dire quoi, effondrée ?
Ah bah, effondrée, c'est une espèce qui se fait de plus en plus rare. Hein.
Allez, qui aime, madame ? Toute la matinée, bon. Une merveille. Monsieur, dame.
Viens voir, viens.
Le poisson, il a mangé le poisson.
Regarde, le poisson, comment il est bizarre. Mimi, regarde.
Pêle-mêle, au hasard du coup de filet, les algues profondes où dort la vie mystérieuse des grandes eaux avaient tout livré. Les cabillauds, les aigres fins, les carrelets, les plis, les saumons d'argent guilloché dont chaque écaille semble un coup de burin dans le poli du métal, les mulets, d'écailles plus fortes, de ciselures plus grossières, les grands turbots, les grandes barbues d'un grain serré et blanc comme du lait caillé, les thons, lisses et vernis, pareils à des sacs de cuir noirâtre, les barres arrondies, ouvrant une bouche énorme. Il y avait encore des rougets de roche, à la chair exquise, du rouge enluminé des cyprins, des caisses de merlan aux reflets d'opale, des paniers d'éperlans, de petits paniers propres, jolis comme des paniers de fraises, qui laissaient échapper une odeur puissante. Cependant, les crevettes roses, les crevettes grises dans des bourriches mettaient au milieu de la douceur effacée de leur tas les imperceptibles boutons de jais de leurs milliers d'yeux. Le ventre de Paris, Émile Zola, 1869.
3 kilos, 2, 3 kilos, 15 euros. C'est bon ? Je vous les vide et je vous les coupe, s'il vous plaît.
Allez. On a un quota sur quasiment une grande majorité de nos espèces ici sur Boulogne, excepté le rouget barbé et l'encorné.
Gildas Dubois, responsable de la criée de Boulogne-sur-Mer, une des plus grandes d'Europe, par laquelle transitent la plupart des poissons que nous mangeons en France.
Mais sinon, la grande majorité des espèces sont assujetties à des quotas, justement dans l'idée de préserver la ressource.
Si le bateau pêche par mégarde plus de barres qu'il n'a l'autorisation de le faire, oui. Qu'est-ce qui se passe avec les barres qui sont pris dans les filets ?
Il ne pourra pas le commercialiser. Alors, il a une obligation de débarquement, mais ce ne sera pas commercialisé.
Donc les barres sont jetées ?
Alors, ce n'est pas jeté, ça va partir sur la troisième transformation. Normalement, hein, tout ce
c'est
qui
quoi
est,
ça c'est la troisième dimension, la troisième transformation, c'est quoi
pas, ça va être réduit. Alors, on ne peut pas. En fait, bon, ils ont une obligation de débarque parce qu'ils l'ont pêché. De toute façon, le produit est mort. Donc même s'ils le rejettent, de toute façon, ça va rentrer dans la chaîne de l'écosystème. Mais ils ont une obligation de débarquement. Ils doivent ramener le produit, mais on ne peut pas l'utiliser pour la consommation humaine. Donc ça va être réduit en farine pour de la nourriture animale, par exemple, hein, pour nourrir les poissons d'élevage.
Ça veut dire qu'un très bon bar sauvage,
oui,
peut se retrouver transformé...
Bah, en farine de poisson, tout à fait, pour nourrir les animaux.
Et Gildas, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'un bar, certes d'élevage, peut manger un autre bar.
Bien sûr. Bien sûr.
Mais dans la nature, ça se passe comme ça ?
Oui, bah oui. Ça reste pour eux, ça reste de la nourriture. Hein. Non, mais voilà, enfin, clairement, hein, le poisson ne va pas différencier. S'il dit, bah tiens, c'est mon congénère, je ne vais pas le manger. Non, non, c'est la nature, hein, c'est comme ça. Hein, c'est...
Enfin, la nature ne fait pas de farine, mais...
Non, on est d'accord. La zone du port de pêche s'appelle Cap Écure. Alors ça vient du latin, hein, Cap Écurem, parce qu'auparavant c'était des marécages. Et en fait, dans Cap Écure, la totalité de Cap Écure représente entre 5 et 6 000 emplois. Et principalement dédiés à la filière produits de la mer. Transit par Boulogne quasiment chaque année plus de 300 000 tonnes de poissons.
C'est énorme.
C'est énorme, effectivement.
Donc ça fait que chaque jour ici, il y a 6 fois plus de poissons qui transitent qu'à Rungis, quelque chose comme ça ?
Oh. Pas loin, je pense, oui, bien sûr, bien sûr. La flottille artisanale représente tout juste 10% de ce qui transite ici par Boulogne et ce qui est travaillé ici sur la place.
Donc le reste arrive en bateau quand même.
Le reste arrive principalement par camion, par conteneur, et quasiment pas par bateau. C'est, alors on appelle ça, nous, ici à Boulogne, dans notre jargon, les bateaux à roulettes. Ça veut dire que c'est du poisson qui vient de Norvège, qui vient d'Islande, qui vient des îles Féroé, qui vient du Danemark, et en fait qui est acheté directement par les entreprises locales, qui vont ensuite le distribuer sur la grande surface, sur des grossistes, sur du poissonnier. Et en fait, ces gens-là, eux, achètent le poisson à l'étranger, le font venir sur Boulogne pour le transformer, pour ensuite le revendre sur des marchés européens.
Donc, si je résume, il peut y avoir ici, à Boulogne-sur-Mer, un poisson qui aurait été pêché dans les îles Féroé ou en Norvège,
oui,
qui est découpé en filets ici et qui repart soit en Espagne ou même
oui,
en Belgique.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Et vous, Gildas, vous qui êtes donc responsable de la criée ici à Boulogne-sur-Mer, une des plus grandes criées d'Europe, comment est-ce que vous imaginez l'avenir? Est-ce que vous pensez à l'avenir déjà? Quand vous venez bosser comme ça à 3h du matin en pleine nuit?
Alors, c'est compliqué de penser à l'avenir parce qu'on a un métier quand même qui est relativement compliqué pour se projeter. On ne sait pas si demain le poisson sera là, d'une. Quels seront les quotas? Parce que les quotas se négocient annuellement. Rien ne dit que demain, les courants migratoires vont changer et on ne pêchera plus d'encornés ou on ne pêchera plus de rouges et barbés. Et rien ne dit que demain, je vais avoir une saison d'encornés extraordinaire comme l'année dernière. Donc c'est compliqué de se projeter dans nos métiers. Après, la consommation a aussi évolué. À aujourd'hui, le consommateur, qu'est-ce qu'il demande? Un produit, un poisson prêt à cuire, ce qu'on appelle du pack, du prêt à cuire. C'est un produit qui est déjà transformé. On ouvre la barquette et on le met quasiment dans la poêle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les principaux produits consommés dans les produits de la mer, c'est 1. Le saumon, 2. Le cabillaud, et 3. Les crevettes. Il est extrêmement rare maintenant, et notamment chez les jeunes, qu'un jeune achète un poisson entier pour le faire enfiler chez lui ou le travailler chez lui pour le cuisiner. Je pense qu'à terme, les poissonneries dans les grandes surfaces, là où on trouve le poisson entier, vont disparaître.
C'est-à-dire qu'on ne verra plus les yeux, la queue,
non,
les écailles.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors peut-être pas dans un avenir proche, mais je pense que ça va arriver plus rapidement qu'on le pense.
Alors, le soleil se lève ici à Boulogne-sur-Mer. La criée a fermé depuis à peu près une heure. Les mareyeurs, les pêcheurs, les vendeurs, les écailleurs, les filteurs, les ouvriers de tout le secteur halieutique qui transforme le poisson, ils sont allés manger un petit déjeuner ou boire un café. Et on arrive vers le bout des quais. Et ici, vous ne transformez pas vraiment du poisson.
Pas vraiment. On fait du poisson, mais du poisson végétal. Donc on va dire que ça n'est pas du poisson, mais ça doit y ressembler. Et ça en a aussi le goût. Enfin, je vous laisserai juger parce qu'on vous a préparé une petite dégustation rapide.
Ça, ce sont des blocs de saumon fumé.
Simon Ferniaud, créateur de l'entreprise Zolan. Alors, on goûte.
Allez. Alors, le saumon fumé, c'est... celui-là, il a une technologie qui est brevetée, même. Vous voyez. Et on le fume...
C'est la première fois que je mange du saumon fumé breveté.
Et on le fume de façon traditionnelle. C'est-à-dire qu'on le fume dans un fumoir avec de la sciure de bois de hêtre, comme le saumon... traditionnel. Et là, vous le goûtez, j'ai presque envie de dire, dans les pires conditions. C'est-à-dire que, nature...
Sans citron, sans pain,
sans
beurre.
Sans pain, sans beurre, sans citron. Exactement. Voilà. On va dire ça comme ça.
D'accord. Non, c'est très bon. C'est vrai que ça ressemble. Et c'est le saumon, il est fait à base de...
Alors, le saumon, il est fait principalement à base d'eau. Voilà. 85% de ce produit, c'est de l'eau.
La matière principale, c'est
ouais,
de l'eau. D'accord.
Mais il y a aussi des huiles d'algues riches en oméga-3, donc il y a à peu près la même quantité d'oméga-3 que dans le vrai saumon. Donc c'est une technologie de gélification un peu sophistiquée. Et donc c'est pour ça que la matière principale, c'est de l'eau.
C'est de l'eau fumée.
Un peu de l'eau fumée. Mais il y a quand même pas mal d'autres choses dedans. Et puis il y a cette odeur de fumage naturel qu'on ne remplace pas.
Et ça sent le saumon.
Ouais.
Et ça a exactement la couleur du saumon.
Voilà.
Je regoute. Donc ça ne fait pas grossir en plus.
Non. On me demande souvent, mais pourquoi est-ce que vous êtes absolument obligé de faire des produits qui ressemblent trait pour trait à leurs équivalents animaux?
La raison, c'est parce que. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez mis dans votre assiette quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce que vous connaissez et vous avez accepté de le manger ? Ben non, en fait, ça n'arrive pas. On a tous besoin de repères. C'est comme ça qu'on est constitué, et surtout en matière d'alimentation.
Est-ce que vous pouvez raconter dans quel univers gastronomique ou culinaire vous êtes né ?
Je suis un enfant de la tradition, par mon père, qui était donc journaliste et écrivain gastronomique, et qui donc nous a élevés dans l'absolue religiosité de la bouffe, on va dire ça comme ça. Et puis, il a ensuite créé avec Paul Bocuse l'École nationale des arts culinaires. Enfin, il a vraiment essayé d'œuvrer pour que la tradition culinaire française et que la bonne cuisine puisse perdurer.
Mais ça veut dire que peut-être que les générations de vos pères ou de votre grand-père se souciaient de la gastronomie française. Et vous, aujourd'hui, vous vous souciez de la planète. Il y a comme un déplacement de l'objectif, ou en tout cas de l'identité, quelque part. Vous êtes plus un citoyen du monde qu'un Français, alors.
Mais parce qu'on a tout, on est de la génération de la mondialisation, quand même. C'est vrai, mon père n'a jamais mangé de maïs, par exemple. Il disait, c'est de la bouffe pour les poules. Il disait, moi, le maïs, j'en ai jamais vu avant la fin de la guerre. Ça a été amené par les GI. Et franchement, j'aime pas ça. C'est une bouffe qui m'intéresse pas. J'ai jamais vu manger du ketchup. Donc, voilà, on a tous notre environnement alimentaire très difficile d'en sortir. Et encore une fois, je crois que c'est pour ça qu'on parle de transition alimentaire. Elle est nécessaire. Elle va prendre du temps. Hein. Ça ne se fera pas en 5 ans. Et quand on a des chefs qui travaillent toute la journée des produits de très grande qualité de gastronomie française et qui goûtent ces produits-là pour la première fois et qui disent « Ah ouais, ah quand même, waouh !» Vous avez vraiment bien bossé, c'est assez bluffant. Bah, je crois qu'on n'a pas besoin de plus que ça.
Mais pourquoi le saumon a eu tellement la cote ?
Oui, le saumon, c'est le poulet de la mer. Parce que c'est un produit qu'on peut consommer sans voir ses yeux ni ses écailles. C'est un produit, comme le blanc de poulet, qu'on peut portionner et coupé de son animalité.
Esther El Payani.
Il a belle allure, le saumon.
Critique culinaire.
Même surgelé, il reste appétissant. Le saumon, au départ, c'était tellement commun, je crois que c'est dans les sueurs de la Gironde, on en trouvait beaucoup, que les ouvriers devaient avoir écrit sur leur cahier. Vous savez, quand on était payé à la semaine, on avait un sorte de cahier où on écrivait les choses en guise de contrat. Et il y avait écrit « On ne mangera pas plus de 2 fois du poisson rose dans la semaine. » Tellement les eaux étaient riches en saumon, c'était un plat qui était servi aux ouvriers pour le déjeuner au XIXe siècle. Waouh ! Alors que moi, quand j'étais petite, le saumon fumé, c'était un truc pour les fêtes, c'était hyper cher, ça venait de Norvège, ça faisait rêver. C'était un produit de fantasme, le saumon fumé, quand j'étais petite. Et donc, en effet, la Norvège a marketé cela pour après faire un produit standard qui ensuite a été déversé partout. Mais on est en train de vivre la même chose avec le caviar, qui était un produit très noble et très cher, qui était uniquement d'exportation, de Russie, etc. Puis on s'est mis à avoir du caviar d'élevage, parce qu'on n'a plus pu exporter de Russie, et c'est devenu un produit noble, et maintenant vous trouvez des caviars en supermarché. Et voilà, à chaque fois on va prendre un produit, au lieu de maintenir le standard de qualité, on va l'abaisser pour le rendre populaire, pour développer les volumes. La question du volume, elle est fondamentale dans le saumon. On en produit, c'est phénoménal.
Donc c'est devenu aussi un plat français par excellence, ou un plat des Français par excellence? Mais ça risque de disparaître.
Bon, il y avait le saumon à l'oseille dans les années 50. Le saumon à l'oseille des Trois Gros, pareil, c'était au départ du saumon qui venait de France. Il y avait du saumon dans la Dour. Et puis ça s'est raréfié, en fait.
Monsieur Trois Gros, à part goûter tous les produits, là, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ?
Il faut goûter les produits pour savoir
si... Ah, parce que vous êtes gourmand.
Jean Trois Gros.
Ben heureusement, pour moi, je ne sais pas cuisiner.
Alors,
dans la grande cocotte.
Alors, il ne faut pas qu'il d'arrête.
Février 1977.
Attends, vous suivez bien l'arête, comme ça.
Attendez, le poivre, voilà. Je n'aime pas.
Sa recette du saumon à l'oseille devient alors l'une des premières incarnations de la nouvelle cuisine.
On va enlever la peau aussi. Et vous faites escalope très plate.
Et au début, je ne me suis pas senti libre du tout, puisque j'étais héritier d'une tradition. Mais quand j'ai compris que...
La tradition, justement, de mon père et de mon grand-père, c'était le changement. Et de ce jour-là, je me dis, allez hop, le saumon à l'oseille, je le mets de côté.
Michel Troisgros.
Il fait partie de l'héritage, mais j'ai envie de m'en dépêtrer.
Fils.
Parce que...
Petit-fils.
On me le demande trop, à toute saison.
Et père de cuisinier.
J'en prive, je m'en prive, et j'en prive les clients. Je fais un peu taper sur les doigts, quand même, hein. Il y a eu... ouais, ouais. Ah bah ouais, il y a eu des moments difficiles, y compris... Des discussions avec mon père, où il disait non, là, Michel, arrête. En ville, tous les gens que je croise me disent que t'as enlevé le saumon à l'oseille de la carte. Je dis oui, je l'ai enlevé, oui, 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 en effet. Non, mais remets-le, c'est un plat de tradition. Je dis papa, tu m'as montré l'exemple, t'as fait la cuisine de ton père, toi. Il me dit bah non, mais on était dans une période, la nouvelle cuisine française. Je dis oui, mais c'est vous qui l'avez créé, la nouvelle cuisine française, c'est pas la période qui s'est offerte à toi. Et puis il est plus revenu dessus après. Il m'a plus embêté du tout. Et puis les mois et les années sont passés, puis on m'a pu embêter avec le saumon à l'oseille.
Qu'est-ce qui vous a déterminé à arrêter le saumon à l'oseille? Vous avez parlé de saisonnalité. Vous vous souvenez de ce jour où vous vous êtes dit « Non, mais là, c'est plus possible. Le saumon, c'est plus possible. »
Il y a plusieurs facteurs. La saisonnalité, comme c'était plus du saumon local, mais du saumon d'importation, on en recevait toute l'année. Des beaux saumons, hein, d'ailleurs. Mon père il avait les yeux qui brillaient quand il voyait arriver les saumons de Norvège. Ah mais il dit bah c'est autre chose que ce qu'on avait dans la Loire, hein. Disons, c'est des pièces magnifiques, ils ont pas d'hématome, on faisait des filets d'escalope parfaites et tout. Seulement derrière ça, il y a eu après l'industrialisation du saumon. Moi j'ai hérité du saumon et de son industrialisation. Impossible de trouver des saumons de qualité, parlons même pas du local. Donc plus de saisonnalité, il y en avait toute l'année. Alors c'est assez drôle d'ailleurs, parce que ce qui fait le principe du saumon à l'oseille, ce qui l'inscrit dans l'histoire de la cuisine des Troisgros et même de la cuisine française, c'est sa vitalité, sa saisonnalité, le fait d'être dans la Loire à quelques kilomètres du restaurant. Ce qui fait ses principes le détruit. 30-40 ans plus tard, c'est-à-dire à mes yeux, lui donne le sens opposé de ce qu'il a que la valeur initiale. Donc ça, je l'ai analysé et c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Et maintenant, je le refais. Mais je le refais avec bonheur parce que je trouve du saumon à nouveau français, d'une ferme bio, voilà, des jolis petits saumons qui ont une chair très ferme, qui n'ont pas la couleur saumon flamboyante de Norvège, là, mais au moins, ils sont fermes, moins gras, ils sont pas si gros et ils ont une texture, voilà. Et je retrouve ce goût de l'enfance.
C'est la même recette ?
Ah oui, c'est la même recette. Ah, j'ai rien changé à la recette, hein. C'est l'origine du saumon qui n'est pas la même. Mais la recette est exactement la même, exactement. Vous voulez que je vous la dise, la recette ? Échalote, ciselée, dans une casserole, avec un bon verre de Sancerre, un demi-verre de noix Yprat, un verre de fumée de poisson, on fait réduire sur le feu, on crème avec une crème épaisse, qui supporte la cuisson. On amène au point d'ébullition. On assaisonne de sel, mais pas de poivre, juste de sel. Dernier moment, on jette des feuilles d'oseille qui ont été toilettées avant. Voilà. Chiffonnade, un peu de sauce, mais pas coupé au couteau, hein. Juste cassé à la main, comme ça, rompu à la main. Dernier moment dans la sauce chaude, comme ça. On retire du feu. Parallèlement, il faut tailler un beau pavé de saumon pris en plein cœur. On taille des escalopes d'à peu près 5 mm d'épaisseur, salé mais pas poivré, poêle anti-adhésive sur le feu, cuit d'un côté, allez, disons 20 secondes, on retourne, on nappe l'assiette de sauce, on pose l'escalope sur la sauce. Assiette chaude, le temps que l'assiette arrive à table, le saumon termine sa cuisson. Et sans attendre, on plonge la cuillère dedans, c'est excellent.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que, justement, la nature, la saisonnalité, ça fait partie de choses qui vous préoccupent plus, peut-être ?
Comme tous les cuisiniers de notre époque. On ne peut pas être insensible à la beauté de ce qui nous entoure et en même temps à la fragilité de ce qui nous entoure.
C'est pour ça que vous avez délocalisé votre restaurant.
Oui, oui, on est passé de la place de la gare, pas terrible, hein, dans une ville de province, franchement, il y a mieux, hein. Surtout que c'est une ville où il y avait une industrie textile et il y avait des raisons d'être là. Mon grand-père, il avait eu raison en 1930 de s'installer là, mais ces derniers temps, il n'y avait plus aucun sens d'être là, sinon l'histoire. Voilà, l'histoire... l'histoire fait pas une maison actuelle. Et puis l'histoire... c'est pas le progrès, quoi, l'histoire. Il fallait absolument que on puisse avoir un potager, un verger, et puis un lieu pour que ça ne soit pas qu'une table, que ça soit un lieu dans sa totalité. La nouvelle maison de Houche, elle nous donne vraiment ça, quoi. Des sensations, une énergie folle. Les temps, les arbres, enfin, c'est merveilleux, hein. Aller vers la campagne, ben, je sais pas, c'est aller vers la ressource, en fait. Il y a toujours des multitudes de soucis à gérer au quotidien. Hein. Mais au moins, voilà, on est dans un lieu où, hop, on lève la tête, on dit « Waouh, la lumière qu'il y a là, trop beau !»
Et vous, Loïc Bienassi, vous qui étudiez l'alimentation à travers les âges, et notamment en Europe et en France, est-ce que vous voyez... une évolution du discours autour du terroir et de la saisonnalité?
Alors, le mot de terroir, qui est un mot assez intéressant, qui est un mot qu'on dit toujours très français, assez peu traduisible. Le mot de terroir, c'est finalement la rencontre du naturel et du culturel. Des conditions naturelles, de climat, d'exposition, des sols et des savoir-faire humains. Des techniques à la fois de culture et ensuite de production, oui, des fromages, de culture lorsqu'il s'agit du vin. Voilà. Donc, sur un territoire donné, c'est ce croisement du naturel et du culturel. L'idée que l'origine détermine la nature d'un aliment, ses qualités, elle n'est pas nouvelle. On trouve trace même dès le Moyen-Âge. Il y a certains produits qui avaient des réputations, je ne vais pas dire des appellations d'origine, mais on pourrait presque dire ça. La moutarde de Dijon était connue dès le Moyen-Âge. Enfin, voilà. Mais il y a quand même un discours contemporain qui s'est construit tout au long du XXe siècle, avec différentes lois, notamment à partir d'une loi en 1905, sur les appellations d'origine. La volonté de protéger, par la loi, les produits, que tout le monde ne puisse pas usurper les appellations. Donc, le mot terroir lui-même n'a gagné ses lettres de noblesse que de manière assez récente. C'est un mot ancien, utilisé au XIIIe siècle, pour qualifier un peu la terre. C'est-à-dire, par exemple, un vin dont on disait au XVIIe siècle qu'il avait un goût de terroir, c'était pas un compliment. Hein. C'était plutôt un vin de bouseux, si vous voulez. C'était quelque chose qui, on sentait justement son côté, son origine, si on veut, mais ce côté terre, ce côté peu noble, peu délicat, voilà. Et c'est en fait à la fin du XXe siècle que ce mot va prendre cette connotation positive avec l'idée que précisément c'est une qualité quand on peut sentir l'origine d'un produit. Quand on peut se dire qu'il est rattaché à un sol, à un lieu donné. On peut y voir clairement quoi, une réaction à la mondialisation, à l'idée que désormais tout est déterritorialisé, dont on n'arrive plus à pister les origines, à comprendre les origines, à savoir d'où viennent les produits, clairement. Il y a cette dimension-là.
Dans cette déterritorialisation, on court après un terroir, qu'on fantasme autant que les saisons de nos grands-mères. Et on se demande comment nos goûts vont suivre le cours du temps et des espaces qui se rétrécissent. Manger nous permet alors de nous raccrocher à notre enfance, à notre France et à notre histoire. Parce que manger laisse une empreinte en nous, et parce qu'il y a une dimension poétique dans la cuisine, c'est à la fois très concret et un peu irréel, parce que nourrir, c'est forcément transmettre. Comme dit Ryoko Sekiguchi, nos plats sont des associations de plusieurs êtres vivants qu'elle compare à des corps célestes en rotation, chacun à une vitesse et sur une orbite différente qui soudain se rencontrent. Ryoko est japonaise et elle dit qu'on mange des fantômes et que la terre est une marmite.
C'est vrai que le terroir, dans le mot terroir, il y a la terre, mais il n'y a pas que la terre. Il y a aussi tout ce qui pousse au-dessus de la terre. Et la pluie aussi, l'air, l'humidité. Et manger le paysage, certes, c'est fantomatique dans le sens où ça n'a pas de corps concret, mais ça a une saveur. Et manger quelque chose dont on ne connaît pas la provenance, c'est manger quelque chose en acceptant que cette part de saveur Ne manquera pour toujours. C'est un peu dommage. Et quand on est tellement habitué à ne pas savoir d'où vient chaque produit, on ne se rend même pas compte de ce manque, de cette saveur invisible.
Et la saisonnalité, Loïc de Dianassy, est-ce que ça, c'est quelque chose d'ancien en France ou est-ce que c'est récent aussi?
C'est-à-dire que la saisonnalité allait de soi pendant longtemps, même si, en réalité, il y a toujours eu cette volonté de vaincre les saisons. Et que...
Dans l'histoire?
Mais on voit bien que, sous Louis XIV, par exemple, à partir du moment où on commence à réussir à avoir des primeurs, c'est-à-dire à faire venir le plus tôt possible certains fruits, certains légumes, les fameux petits pois dont on raffolait à la cour de France, c'était un gage de qualité. Il y avait un côté, je pense, alors là, pour un peu tout remettre en système, cette volonté de vaincre la nature qu'on peut retrouver un peu dans le jardin à la française où on met tout à l'équerre, on met tout droit, qu'on peut retrouver dans le service à la française, hein, où sur la table tout est ordonnancé de manière très symétrique, d'une certaine façon, c'est aussi une victoire de l'homme sur la nature que de vaincre les saisons. Donc là, il y a quelque chose qui était, je pense, valorisé finalement très tôt. Et au XIXe siècle, il y a quand même l'apertisation, la mise en conserve, qui... Donc,
grâce à la découverte de Nicolas Appert.
C'est ça. Donc, on est là au début du 19e siècle. Et on voit que même les gastronomes, je pense à Grimaud de la Reynière, finalement, félicitent Nicolas Appert de ses trouvailles. C'est-à-dire que les gastronomes estiment que c'est une excellente chose. Et donc, que la conserve est finalement quelque chose qui ne peut que réjouir les gastronomes. Tout ça pour dire que s'éloigner de la saisonnalité a aussi pu être, en fait, un objectif de nos sociétés et de nos sociétés urbaines. Aujourd'hui, on tient un discours totalement opposé. Je dis bien un discours, hein, parce qu'évidemment, il y a les pratiques et les discours. Or, c'était quelque chose de parfaitement assumé dans des discours au 19e siècle et ce n'était pas en soi un souci. Alors évidemment, il y a d'autres enjeux maintenant. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que même le discours gastronomique, finalement, est pris par ces injonctions, ce discours écologique, ces préoccupations environnementales. Et finalement, le bon gastronomique lui-même est déterminé par cela. C'est-à-dire que on estime que ce qui est bon, même gustativement, d'une certaine façon, c'est ce qui est bon, j'aurais presque envie de dire moralement. C'est-à-dire qu'au-delà même des enjeux écologiques, puisque c'est bon écologiquement, c'est bon moralement. Donc il y a une sorte de combinaison, désormais, comme quoi le bon moral rencontre, supposé rencontrer, le bon gastronomique, d'une
certaine façon.
Le bon goût. Le bon goût. Ouais. C'est encore autre chose, peut-être le bon coup, non?
Vous connaissez les sens, les cinq sens? Quels sont les cinq sens, Félix? Tu te souviens des cinq sens?
L'odorat.
L'odorat.
Le goût.
Le goût.
La vue.
La vue.
Et le...
L'ouïe. L'ouïe, il en manque un.
Et c'est le toucher.
Le toucher, ok. Et donc là, quand Niki se rue sur les œufs et Moïse sur les sushis, quel est le sens qui s'éveille, d'après vous? Oui.
Je crois que c'est à peu près genre... c'est comme moi, j'étais dans un hôtel au ski, et je vais prendre plutôt quelque chose qui va bien avec la situation, un truc comme ça, genre... moi, je vais prendre, un chocolat chaud ou un truc comme ça pour le petit déjeuner. Des choses qui vont bien, quoi, qui te vont bien avec l'endroit où tu es, quoi.
Ah, ça, c'est encore autre chose et c'est intéressant, ça. Alors,
à partir du moment où on dit qu'il n'y a plus de saison, on ferme les yeux et on ferme la porte de sensation. Et souvent, on dit que quand on habite dans une grande ville, on ne sent plus de saison parce qu'on voit moins de plantes. Mais il suffit de sentir, il suffit d'ouvrir les fenêtres, il suffit de sentir l'air, il suffit de sentir l'humidité. Et la peau sent aussi, notre corps sent la saison et qui lui dicte ce que vous avez envie de manger aujourd'hui. Tous les matins... c'est possible d'ouvrir grand les fenêtres et d'être en contact avec le monde extérieur Et écoutez votre, la voix de votre corps. Qu'est-ce qu'elle vous raconte?
Est-ce que vous l'imaginez, cette gastronomie, cette cuisine française, dans 50 ans, avec justement d'autres choses qui vont pousser sur nos sols, peut-être?
Il va falloir imaginer qu'est-ce qui pousse sous 50 degrés, en fait. Le défi du changement climatique. Quand je vois un auteur de cuisine, il n'y a pas longtemps, qui disait « Non, mais je fais attention, à la fin de mes livres, je mets les tableaux des saisons. » Et j'ai eu un fou rire, mais c'était... Enfin, je comprends ce qu'il voulait dire. Hein.
Esther El Payani.
Mais il n'y a plus de saison.
Critique culinaire.
Donc la saison, c'est il faut regarder le produit, d'où il vient, comment il est produit. Quand on me dit « Non, non, il n'y a pas de framboises en ce moment », ben si, moi, dans mon jardin, j'en ai plein, parce que j'ai des framboises remontantes, et vu la météo qu'il a fait, d'un coup, ben, j'en ai une deuxième, j'en ai plein d'un coup. Et pour autant, ça veut dire qu'elles ne sont pas de saison, puisque je ne suis pas censée en avoir là? Ben si, elles sont parfaitement de saison, puisqu'elles ont poussé dans mon jardin. Donc, ce qui nous attend, c'est de sacrés chassés-croisés. Un exemple récent, la truffe. Alors moi, j'avais un arrière-grand-père trufficulteur dans le Vaucluse, au moment où la truffe coûtait rien. Le moment où il y en avait tellement que c'était pas si hors de prix. Donc ça fait déjà réfléchir sur ce que c'est devenu. Et aussi sur ce qui nous attend sur certains produits du quotidien qui vont peut-être devenir des produits de luxe, évidemment.
Par exemple
le chocolat, la viande de bœuf aussi. Comment elle va être élevée selon les standards de consommation? Ça va devenir un produit de luxe. Ça devrait être un produit de luxe, en fait. Quand je dis ça devrait, je veux dire en termes de mécanique de prix. Historiquement, les truffes, elles étaient plutôt là en décembre, janvier. Okay. C'était pour les fêtes de fin d'année, où c'était le top, elles étaient très mûres. Et puis moi, alors j'ai 49 ans, ces 20 dernières années, j'ai vu la chose se décaler à fin janvier. Alors qu'avant, c'était plutôt... sur les cartes de Noël et de fin d'année. Le plat classique du printemps, c'est asperges et morilles. Bah maintenant, on se retrouve avec plus d'asperges truffes. Étonnant, non?
Oui, donc ça va créer des nouvelles recettes.
Oui, mais c'est un mouvement perpétuel. Le chassé-croisé des gens, des personnes, des saisons, des conditions climatiques. La cuisine, c'est un travail de nécessité. On fait avec ce qu'on a sous la main. C'est quand même très nouveau d'aller faire ses courses avec une liste pour une recette.
On écoute la recette de Baye.
Mais c'est pas du tout le 19 septembre. La tarte de guirlande. Faites bouillir de l'huile du robinet. Faites frire vos guirlandes. Puis faites la pâte. Cassez les œufs, mélangez avec de la farine de luciole, de l'eau du robinet et rajoutez quelques grains de sel. Déposez sur la pâte vos guirlandes frites. Parsemé de nuages, mettez au fond magique à 230 fées.
Allez, une autre recette un peu farfeluche. Vas-y, Martin.
La soupe aux fourmis. Un gros nid de fourmis, des feuilles d'ortie, un scorpion pour que ça croustille et mélanger.
L'omelette au corbeau. Faites griller un corbeau, découpez-le en tranches, rajoutez des lamelles d'étoiles, ramassez-le. De la bergamote sur le chemin des sept nains. Mettez-le à la poêle. Bon appétit. La soupe aux fées. Fait bouillir de la lave de limace. Renverse une potion de Marie Curie pour le sel. Râpe du fromage de gorille. Découpe les doigts de singe en cubes pour les cubes de bouillon. Mélange le tout, fais cuire dans la bouche d'un chien enragé. Bon appétit!
Ce qui est bien comme ça, c'est que quand tu chasseras avec tes amis, la famille, ainsi de suite, t'oublies pas, sur tes pâtés, tu mets un tout petit peu de cochon pour avoir le gras du cochon, donc que ça soit la poitrine ou la gorge. Tu fais pas 100% sanglier.
En général, je mets 30% de
cochon.
Cochon.
C'est bien.
Cochon.
Moi, je dis toujours cochon, parce que...
Nicolas Véro.
Je trouve que le mot porc a une mauvaise connotation.
Charcutier.
Par exemple, c'est malheureux, mais quand on dit « t'es un gros porc », c'est mal... T'as mangé comme un petit cochon ou t'as mangé comme un gros porc, je trouve que la connotation de cochon est plus douce que porc. Voilà.
Traditionnellement, la tue cochon, la mise à mort, elle se fait en hiver d'ailleurs. Mais sauf qu'il va falloir qu'on puisse manger cet animal toute l'année. Et en fait, de là est né l'impératif de la charcuterie, de transformer la viande pour pouvoir la conserver. Alors, quand on va mettre à mort cet animal, il va falloir qu'on puisse avoir à manger pour toute la saison. La première fois que j'ai fait du jambon blanc, eh ben, je me suis dit, c'est drôle parce que le geste que je suis en train de faire, mon père l'a fait avant moi, mon grand-père l'a fait avant moi, et mon arrière-grand-père l'a fait avant moi. Exactement le même geste. Et là, j'ai eu un petit moment d'émotion. Je me suis dit, c'est quand même beau et fou à la fois de se dire, à 30 ans d'intervalle, on fait la même chose et avec cette même volonté de faire le mieux possible, quoi. La graisse débordait, malgré la propreté excessive, et au milieu de cette buée amassée goutte à goutte, de cette évaporation continue de trois marmites où fondaient les cochons, il n'était certainement pas
du plancher au plafond, un clou qui ne pissa la graisse. Les quenus Gradel fabriquaient tout chez eux. Ils ne faisaient guère venir du dehors que les terrines des maisons renommées, les rillettes, les bocaux de conserve, les sardines, les fromages, les escargots. Aussi, dès septembre, s'agissait-il de remplir la cave vidée pendant l'été. Quenu, aidé d'Auguste et de Léon, emballait les saucissons, préparait les jambons, fondait les saindoux, faisait les lards de poitrine, les lards maigres et les lards à piquer. C'était un bruit formidable de marmites et de hachoirs, des odeurs de cuisine qui montaient dans la maison entière. La charcuterie fraîche, les pâtés de foie et de lièvre, les galantines, les saucisses et les boudins. Derrière eux, Léon hachait de la chair à saucisse sur le bloc de chêne à coups lents et réguliers. Auguste alla d'abord chercher dans la cour deux brocs pleins de sang de cochon. Quenu prétendait qu'Auguste saignait comme pas un garçon charcutier de Paris. La vérité était qu'Auguste se connaissait à merveille à la qualité du sang. Le boudin était bon, toutes les fois qu'il disait « le boudin sera bon ».
La vérité était qu'Auguste se connaissait à merveille à la qualité du sang. Le boudin était bon, toutes les fois qu'il disait « le boudin sera bon ». C'est assez fou, parce que... En fait, pour moi, la tradition, c'est ça. Et moi, je trouve ça assez émouvant. C'est exactement comme ça que j'imaginais travailler mes arrière-grands-parents ou mes grands-parents. Aujourd'hui, on peut travailler un peu différemment, mais en fait, il y a ce côté intemporel. C'est-à-dire que ces gestes-là, ils ont été reproduits pendant des siècles. Et Auguste, qui dit « Moi, je peux savoir comment est-ce que le boudin, il sera bon ou pas ?» C'est exactement comme nous, aujourd'hui, quand on est en train de tourner une farce, eh ben, on peut vous dire. Est-ce que la farce sera bonne? Est-ce que la terrine fabriquée avec cette farce sera bonne ou non? Et mine de rien, en fait, on est juste que la suite d'Auguste, que de Quenu, et ainsi de suite. Et quelque part, voilà, je lis également chair à saucisse, boudin. Je trouve ça beau, cette passation, en fait, de génération en génération. J'ai aucun doute, je le sais, que tous ces produits n'ont pas été créés à l'époque de Zola, au XIXe siècle. Pour la plupart, ils datent du Moyen-Âge, voire même de l'Antiquité. Bref, en fait, ça nous fait nous sentir tout petits, parce que c'est d'une banalité sans nom, mais on n'a rien inventé, quoi.
Tout petit ou tout puissant, parce que d'une certaine manière, vous capturez le temps ici.
On capture le temps. Disons que on fait nôtre un savoir-faire, on immortalise une époque avec des recettes qui se renouvellent et ainsi de suite. Donc on immortalise une époque en créant une recette, en l'écrivant, et ainsi de suite.
À force de suivre des recettes qui capturent le temps, de feuilleter ces livres de cuisine qui sont comme des archives, et qui sont les seuls livres qui procurent une relation si particulière avec leurs auteurs parce qu'ils nous permettent de faire revivre leurs gestes en interprétant leurs recettes, à force de regarder le sang, de faire des pâtés, des compotes, des blanquettes, des soupes à l'oignon, des plats régressifs que je n'avais jamais préparés avant, et surtout depuis que j'ai retrouvé le faitau rouge de ma grand-mère Mémé Camille, je me sens appartenir à une lignée de cuisiniers en France. Une sorte de communauté invisible qui a ses trucs et ses fonds de sauce. Un peu comme si on était tous reliés à un pays qui nous habite, comme si on avait mangé l'Ancien Régime, la Révolution, le romantisme, les rutabagas d'après-guerre ou les droits de l'homme, comme si on avait en commun une essence française qui viendrait de racines et de cuisiniers et de cuisinières aujourd'hui disparus. Carême, Escoffier, Louffet, Bocuse,
Abdallah, Barrioche, Bonneau, Chieux, Crapoulet, Crobignac, Delbono, Ferrari, Festin. Oh, il y a quelqu'un qui s'appelle Festin.
Et je me suis demandé si ce serait possible de convoquer ces fantômes qui hantent nos cuisines sans qu'on le sache vraiment.
C'est Kikuchi. Allez, je saute.
Appel en cours. La porte est ouverte.
Alors, je suis allée revoir Ryoko. Elle a écrit Manger fantôme et je lui ai demandé si on pouvait faire un repas pour convoquer le fantôme du chef Escoffier. Et là, elle m'a dit...
Ouais, bon, on va faire descendre un fantôme, d'accord, mais bon, Escoffier, je ne sais pas si j'aimerais bien déjeuner avec lui. Ouais, avec tout le respect que j'ai pour ce grand monsieur.
Donc, vous avez eu envie de convoquer un fantôme en particulier, c'est ça que vous m'avez proposé?
Oui, c'est plutôt une cuisinière, donc une femme qui s'appelle Anna. On connaît juste son prénom et je l'ai rencontrée, disons que je l'ai rencontrée lorsque j'étais lycéenne au Japon, dans un texte écrit en japonais. Et donc ce livre, paru en 1938, qui s'appelle « Le carnet d'Anna ».
Le carnet noir d'Anna a été retrouvé et publié par Édouard de Pomian. Lui, c'est l'inventeur de la gastrotechnie, l'ancêtre de la cuisine moléculaire, et c'est aussi un aïeul radiophonique qui a créé Radio Cuisine. En préface, de Pomian écrit qu'Anna faisait une admirable cuisine en appliquant des formules qu'elle avait glanées un peu partout. Anna était surtout une bonne à tout faire qui a vécu très seule toute sa vie.
La cuisine, c'était aussi sa chambre. À écrire, son château, et pouvait être tout seul, sans être dérangé, parce que de toute façon, personne n'entrait dans la cuisine. Donc, je pense c'est peut-être ça le seul salut pour elle. Et pour peut-être ça devait être aussi le cas de beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Et je pense que c'est aussi pour ça que cette histoire m'a marquée comme une sorte de matrice de toutes les cuisinières qui existaient dans l'histoire de la cuisine française.
Donc des invisibles, des femmes qui ont été invisibles durant leur vie et qui aujourd'hui sont peut-être des fantômes.
Disons qu'invisibles à ceux qui ne souhaitent pas le voir.
Anna me rappelait un peu le personnage de Victoire Élodie, la grand-mère de Maryse Condé, qu'il a décrit dans « Victoire, les saveurs et les mots » comme enfermé le plus clair de ses jours dans le temple de sa cuisine, tête baissée, absorbée devant son potage, tel l'écrivain devant son ordinateur. Avec Ryoko, on espérait secrètement que l'âme d'Anna viendrait vraiment à notre table.
Moi, je trouve ça très beau. Donc, voilà, donc je dresse la table pour elle aussi, une assiette pour elle, des baguettes pour elle. Je vais... Voilà.
Vous, Ryoko, vous avez quand même déjà fait des dîners pour les fantômes, notamment avec Felipe Ribonne,
oui.
Quand vous étiez artiste en résidence à la Villa Médicis,
oui.
Et ça, vous en avez fait un livre. Mm-hmm. C'est aussi pour ça que je vous ai proposé ça,
oui.
Moi, je n'ai pas d'expérience. Mm-hmm. Donc, vous allez me dire. Donc, j'ai décidé de prendre du vin, des bougies.
Mm-hmm. Vous voulez servir du vin? Ça, je pense que ça, c'est important pour elle. Non, mais d'abord elle.
Donc vous avez déjà ressenti la présence de fantômes?
Une fois, j'ai fait un dîner pour le musée des Arts déco à Bordeaux. Et donc, qui a une collection, donc un bonbon. Et au moment de ranger, avec l'équipe du musée, on fait le dernier tour et on a vu qu'une pomme a été croquée derrière le vitre. Et on ne sait pas qui. Mais on était contents. Ah non, je passe.
C'est quand même un déjeuner où la bougie ne s'est absolument pas consommée depuis tout à l'heure.
Ah non, mais c'est
pas consommé.
C'est quand même incroyable. Ça n'a pas de tout bougé. Elle n'a pas de tout bougé.
Ça veut dire que le temps n'a pas de prise sur nous,
ah,
peut-être.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Ce que fait la lecture de livres de cuisine historique. Les recettes sont des mains de fantômes. Par exemple, si je prépare un plat suivant la recette de Dana, en quelque sorte, c'est les mains de Dana qui reviennent. Et mes mains deviennent les mains d'Anna. Non ? Mais aussi, je pensais que, en fait, finalement, le seul fait de préparer un repas pour elle suffirait pour, en fait, pour, comme raison pour qu'elle vienne. Parce que je ne sais même pas si dans sa vie, quelqu'un d'autre a cuisiné pour elle. Et malheureusement, je ne pense pas. Donc, qu'est-ce que c'est ? Cette espèce de bouillie, là. Pardon.
Ouais, je sais que ça a l'air comme ça, mais... Ben, en fait, j'ai voulu suivre une recette d'Anna.
Alors, expliquez-moi. Alors,
j'ai fait une recette qui s'appelle les poires condées. Ouais. Vous voulez lire la recette ?
Alors, c'est quelle page, hein ?
Je crois que c'est page 42.
42. Laver le riz à l'eau froide, le faire cuire une minute à l'eau bouillante.
C'était Manger la France,
vider la
épisode 4, et plus de saison. Soir. Un documentaire d'Élodie Maillot,
faire
réalisé par David Jacoboviez, avec Estherelle Payani, Michel Troigros, Nicolas Véro, Gildas Dubois, Charles-Hubert Lamouret, Simon Ferniaud, Christophe Lavelle, Ryoko Sekiguchi, Lisa Mendy-Payost et les élèves de CM1 de l'école de l'Arbre Sec, et le fantôme d'Anna.
Laissez froidir 5 minutes.
Lecture, extrait du Ventre de Paris, d'Émile Zola, lu par Clémentine Bernard.
Le riz est prêt.
Merci à Maison Véro, à Antoine Legarec, à l'école de l'Arbre Sec, à Yannick May et à son équipe, et aux éditions Menu Frottin pour la réédition des carnets
d'Anna.
Prise de son, Olivia Branger, Nicolas Depagraf, Manon Houssin, Yvan Charby et Jeffrey Marianne.
Le gingembre.
Documentation, Anne-Lise Signoret,
ah, bon,
Archivina, Ingrid Anne Lecointe, mixage, Jason Taous, chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, coordination, Johanna Bedeau et Emmanuel Laurent.
On est obligé de trinquer.
Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France. La table de lignée, donc...